Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en mars 2012 et c'est le numéro 13. Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro, je suis en compagnie de mon complice habituel et historien des batailles navales britanniques, Cyril.
Bonjour.
Nous aurons tout à l'heure la chronique helvétique d'Antoine, et surtout nous avons un invité, Manox, qui a accepté de quitter la cave de l'apéro du Capitaine pour nous rendre visite.
Bonsoir, bonjour, comment ça va?
Ça va et toi?
Bah bien.
Bonsoir Manox.
Bonsoir, bonsoir Cyril, bonsoir Cobal.
Au sommaire de cette émission, nous aurons donc une critique d'un jeu de SF assez mystérieux que nous présentera Cyril, une critique de Maléfice par mes soins, puis la chronique helvétique d'Antoine avec un panorama des systèmes de jeu, et enfin la rubrique de notre invité.
Oh vache !
Mais avant cela, les news. Alors, ce mois-ci dans les news, alors tout d'abord, il faut que je vous parle d'un truc super important. Il y a en ce moment sur ululé.fr, donc la plateforme un peu comme Kickstarter, qui permet de pré-vendre des jeux pour des projets à petit comité, en quelque sorte, pour que ça sorte. Et là, cette fois-ci, il y a la traduction de l'excellent jeu indépendant Donjon de Clinton Ernickson. Donc c'est un jeu qui est rétro dans la forme, parce que il a une couverture qui ressemble un petit peu à la boîte rouge de D&D,
ouais.
Avec des illustrations par notamment le mec qui a illustré le sorcier de la montagne de feu.
D'accord.
Donc le jeu dont vous êtes le héros, ouais. Bien connu. Donc le but affirmé du jeu, c'est d'avoir en fait de retrouver l'espèce d'émerveillement que tu pouvais avoir en faisant ta toute première partie de jeu de rôle. Quand tu explores pour la première fois un donjon, que tu comprends rien, que tu sais pas trop comment lancer les dés, mais que tu vois que tu te rends compte que tu es libre de faire plein de choses,
ouais. et que tu te fais crever par un squelette et que tu tombes dans un trou, quoi.
et comment ils vont réussir cet exploit?
Alors, c'est l'objectif de ce jeu. Et donc je disais, c'est un jeu qui est rétro dans la forme, mais qui est narratif sur le fond. Donc avec très très inspiré. je vois Cyril qui fond sous l'acide de mon narrativisme. donc narratif sur le fond parce que les personnages, enfin plutôt les joueurs. Peuvent décider de ce qu'ils découvrent lorsqu'ils découvrent des choses. Par exemple, tu fais un jet de dés, tu décides que tu vas écouter une porte,
ouais.
Tu fais ton jet, et là tu fais deux succès. Et en fait, ces succès correspondent en fait soit à des faits que tu peux énoncer, c'est-à-dire tu dis « j'entends le bruit d'une conversation », ça fait un fait. Et deuxième fait, ce sont des orques et ils sont au moins 5.
Ah mince, je me casse.
Donc, mais en fait, c'est le joueur qui détermine ce qu'il entend.
D'accord, ouais.
Et donc, soit il choisit ça, soit il choisit d'avoir des bonus qui serviront pour ses prochains jets.
D'accord, ok. Ah oui, c'est une sorte de jeu dont vous êtes le héros, un peu plus perfectionné, quoi.
Oui, ça reste quand même un vrai jeu de rôle, vu qu'il y a quand même un MJ qui, lui aussi, de son côté, peut contrecarrer les propositions des joueurs en les modifiant, en les tordant.
Ok, d'accord. En fait, le maître du jeu transforme, enfin joue avec le joueur qui lui-même crée
l'événement. Pour une fois, il joue contre eux vraiment. C'est-à-dire, c'est dans le contrat de départ, quoi. Il est contre eux et il va leur mettre des bâtons dans les roues jusqu'à la fin de la partie. Mais c'est vraiment son rôle et il est prévu pour ça. Donc ce jeu est absolument génial. grâce à mes hautes compétences en social engineering, j'ai réussi à avoir la VF en avance.
Pas mal.
Donc j'ai commencé de le lire, c'est super bien. Et donc il faut absolument l'acheter sur Donjon. En sachant que si... Dans ce type de projet, il y a toujours plusieurs niveaux de contribution. C'est-à-dire, tu peux avoir soit le jeu de base qui est à 21€, ce qui est vraiment pas cher. Et en fait, plus tu mets d'argent, plus tu as une contrepartie forte. Donc, plus tu as des trucs en plus.
D'accord, il file des trucs, quoi.
Voilà. Donc, après, la version du dessus, tu as en plus l'écran du meneur de jeu. La version du dessus, tu as des tuiles géomorphiques qui te servent à constituer un donjon au fur et à mesure. Voilà. Et après, tu as des tuiles en géomorphiques aussi, mais couvertes de Velleda. Et en fait, tu peux dessiner les murs et les machins dessus. Voilà.
D'accord. Tu contribues, tu as de plus en plus de matériel. Quoi,
voilà, tu as de plus en plus de matos. Et la version ultime, dont il ne reste plus d'exemplaires malheureusement, puisque c'était limité à 5, qui est la version où tu as le t-shirt collector, que j'aurai donc.
Ah.
Et voilà, où il y a écrit « Stuck in the dungeon ».
Ouais, d'accord.
C'est super, hey. Ça valait le coup de mettre 500
classe,
euros là-dedans.
Non, c'est pas si cher que ça. Donc voilà,
c'est bien.
Le jeu est super bien. En plus, pour 21€, franchement, frais de port compris. Donc c'est vraiment pas cher et ça vaut vraiment le coup.
J'attends de découvrir ce livre, mais sur le principe de pouvoir contribuer à un jeu en fonction à la fois de son envie et puis de ses moyens financiers,
ouais,
je trouve ça vraiment super, il n'y a pas de souci.
Bah, ils avaient fait la même chose, notamment avec les Légendes de la Garde, donc le jeu de rôle tiré de la BD de... comment il s'appelle? De Petersen.
Petersen.
Ouais, donc les Légendes de la Garde, c'est Mosguard. Ça va, je l'ai bien prononcé, tu vas pas me faire chier.
Non, très très bien. Mais tu y es venu.
Voilà.
Oui.
Non,
si tu veux pas y venir, la garde vient à toi. Donc.
Oui, ouais.
Oh, pas mal.
Elle est mal amenée. Pardon.
Ouais. Ok, bon, passons. Alors, ensuite, un autre jeu qui va sortir bientôt et dont on sait. Enfin. On connaît grosso modo le principe. Alors, le titre est assez génial, je trouve. Ça s'appelle Hartung Cthulhu.
Oula.
Hartung Cthulhu.
Oui.
Hartung.
C'est du Cthulhu.
Aria.
S'il arrive.
C'est du Cthulhu casque à pointe, donc.
La Cthulhu, grosse malheur.
Voilà. Donc, Cthulhu sur la Seconde Guerre mondiale, avec une grande campagne qui va de 39 à 46, donc depuis les prémices de la guerre, ou qui se passeront probablement aux États-Unis, puis en 42, où on va se trouver, par exemple, parmi les résistants en France, puis le siège de Berlin en 45,
c'est
et enfin,
mal.
La fin de la campagne, ce sera en 46, et c'est en Antarctique.
Mais en Russie, il n'y a pas, non?
Il y a un. Moi j'ai joué un scénario Cthulhu russe.
Oh. Alors, question, est-ce que depuis 15-20 ans.
Mais je crois que c'est pas dans cette campagne là.
Est-ce qu'en 15-20 ans finalement il n'est pas devenu plus facile de jouer avec la période de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a 20 ans on n'aurait pas dit ah, on peut pas jouer durant cette période du jeu de rôle, c'est sacré ou non?
Non, je crois qu'on pouvait déjà. Hein.
Ouais. Je me pose la question.
Moi j'attends le Pearl Harbor avec.
Oui, le tabou, tu vois, parce qu'on joue très bien des tas de scènes de massacres, etc. Parfois dans des univers qui ne sont pas fictifs, parfois dans le passé historique de la Terre.
Mmh.
Plus ça se rapproche de nous, plus bon, bah, c'est quand même tabou.
Oui, mais après, ça dépend de la façon dont c'est traité. Parce que, évidemment, si je me souviens là du supplément.
Ouais, ça c'est la caricature. Les camps de la mort pour le supplément
oui,
pour les fantômes.
Le supplément Shoah pour le World of Darkness.
Ouais, là, effectivement.
Qui était quand même.
Mais tu l'as lu ou pas?
Non, moi je l'ai pas lu, j'ai lu la critique dans Backstab.
Ouais, c'est ça, voilà. On a tous lu la critique dans Backstab de Croc et puis peut-être d'une autre personne.
Non, il y avait deux.
Voilà,
c'est
ce que je disais, ouais, parce que c'était assez polémique.
Je crois qu'il y avait Benoît qui avait fait
Mais bon.
Benoît Tinos.
Enfin, encore une fois, la question se pose. Après tout, on pose tout le temps la question, peut-on rire de tout? On dit bien que c'est pas avec n'importe qui. Est-ce qu'on peut. Enfin bref, on s'éloigne. Je suis en train de commencer un débat.
Mais bref, non, ça
moi j'attends,
paraît chaud. Quoi,
j'attends le Pearl Harbor Cthulhu.
Ah, parce que Pearl Harbor Cthulhu. Ah, bah mais oui, puisque là c'est dans le Pacifique.
Bah
et
oui,
tout,
c'était pas les Japonais, c'était Cthulhu.
Ah ouais, ce serait classe ça, comme
ah
truc.
Bah, attends, hein. Ils se font envahir par des espèces de monstres marins.
Les prophètes qui sortent.
Ouais.
Alors, excuse-moi, tu vois, il y a Vres, ils avaient fait aussi un jeu, une variation du jeu, spécifiquement en Première Guerre mondiale. Toi, est-ce que ça te choquait ou pas? Première Guerre mondiale,
non,
il y a nos grands-parents qui sont morts
pas,
dedans, quoi, enfin, ou nos arrière-grands-parents qui sont morts à cette occasion, d'atroces souffrances, etc. Imagine, tu vois.
Bah, toutes les guerres en général, c'est dans d'atroces souffrances, enfin, c'est rarement.
Et voilà, et donc les camps de la mort, c'est spécial parce que c'est un sujet qui dépasse l'imagination, donc t'as pas envie de prendre ça à la légère. Mais en même temps, est-ce que on pourrait utiliser exactement le même argument pour la guerre mécanique
non,
de tranchées.
C'est différent parce que d'un côté, tu as de l'extermination massive d'êtres humains et de l'autre côté, tu as la guerre, ce qui existe depuis le début de l'humanité.
Ouais.
C'est voilà.
Ouais,
c'est
bah alors, voilà. Mais comment faire la,
enfin, après, effectivement, il y a les Américains qui peuvent peut-être se permettre de.
Ah mais
je suis par contre conscient qu'il y a effectivement des sujets qui sont tabous pour eux, pas pour nous, et le contraire.
Il y avait aussi eu des suppléments D20 sur l'Afghanistan et puis sur.
Ah oui, l'Afghanistan D20 effectivement.
Peut-être même l'Irak ou non la Somalie. Et j'avais lu celui sur la Somalie,
ouais.
Et il était très bien documenté, le type avait fait son travail documentaire, il était intéressant en fait.
Ouais.
Mais bon,
intéressant
mais,
à lire
mais,
ou à jouer
alors, à lire, et, mais c'est vrai que tu te disais, mais en fait, ces trucs-là se passent aujourd'hui, donc...
Tu veux dire qu'on n'a pas de recul?
Ouais, on n'a pas de recul, alors est-ce que peut-être les camps de la mort c'est un truc tellement énorme qu'on n'aura jamais de recul? Si ça se trouve dans 100 ans, ouais. Mais ils font des jeux avec. Hein.
Ça dépend aussi.
Je sais pas.
Ça dépend comment ils ont appréhendé. Si c'est appréhendé de manière vraiment historique et uniquement historique, bon ben.
Et
t'es un peu trop loin de ton.
L'extermination des dinosaures, ça a été un truc horrible. et là, on en parle comme si je vois que
mais
tu portes un t-shirt All My Friends Are Dead.
Exactement.
Avec un dinosaure.
Avec un vélociraptor.
Tu rigoles, d'un génocide.
Ah oui, non mais
entier, enfin de plusieurs espèces.
Par contre, moi je ne fais jamais de jeu de rôle avec un dans à l'ère des dinosaures, hein, c'est hors de question. Préserver les dinosaures, merde.
Mais qu'est-ce que tu peux jouer à l'époque des dinosaures à part un dinosaure?
Je sais pas, un mammouth, non, c'est un peu après.
Mais il y avait eu les zoïdes. Moi j'aimerais bien jouer un jeu de rôle avec des zoïdes. Vous ne souvenez pas des zoïdes?
Zoïdes?
C'était. T'étais trop jeune, t'étais pas né.
Attends, je t'en prie!
Et toi, tu devais connaître, c'était des jouets japonais avec des. En fait, c'était des petits robots que tu montais qui pouvaient juste se déplacer 2-3 pas et en fait qui avaient la forme de dinosaures. Et il y avait des humains minuscules qui te pilotaient dans une cabine à l'intérieur du robot.
En fait, maintenant, ça m'évoque vaguement quelque chose.
Ouais, les zoïdes. Oh là, je rêvais d'avoir des zoïdes. Enfin,
c'est quand? C'est les années 80?
Oui, les années 80, et alors?
Ah, mais moi aussi, j'étais gamin dans les années 80, monsieur.
C'est vrai?
Oui.
C'est ça qui fait jeune.
Bref, donc les camps de la mort, Cthulhu, la guerre, etc. Donc un univers assez.
Trop camps de la mort, justement. A priori, c'est plutôt de la guerre classique. Voilà, bref. Et l'affiche, le dessin de couverture, qui a priori sera la couverture, est vraiment vachement beau. Et moi, en tout cas, ça donne envie de voir ce qu'ils vont en faire.
D'accord.
Alors, toujours dans l'univers de Lovecraft, avec les éditions Sans Détour qui proposent un kit de campagne présidentielle, Cthulhu 2012.
Oui.
Ah, ça c'est super.
Avec une mallette, donc c'est bien sûr adapté en français et tout, c'est la première fois qu'ils font ça. Donc il y a l'affiche de campagne avec le slogan « La force profonde ». La profession de foi du candidat Cthulhu, son programme politique, il y a une carte d'adhérent au MUP, le mouvement de l'union profonde, un bulletin de vote, une carte postale officielle du candidat, un badge métallique, un autocollant, un ballon pour les sectateurs en culotte courte, un t-shirt et enfin la photo dédicacée du président.
Ouais. Mais je me souviens qu'il y avait déjà eu un truc avec Cthulhu président, c'était à l'époque de Chirac Jospin.
Ouais, mais c'est Chaosium qui fait ça.
Pour les versions
US.
Pour les versions US.
Donc tous les 4 ans, ils le sortent.
Ouais. Oui, ils réadaptent, etc. Quoi. Mm.
Et mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'ils font une vraie version française de ce truc-là. Hein, je crois. Hein.
Et je. Peut-être, oui, sans doute.
En tout cas, voilà, Sans Détour qui fait vraiment un gros boulot sur la licence, la licence Cthulhu.
C'est vrai que tu montrais ta poupée Poké Cthulhu. Non, c'est pas Poké Cthulhu, ça c'est quoi?
Non, c'est juste
un petit Cthulhu en peluche, pardon.
Mais mignon.
Voilà, Cthulhu, bon, les droits sont libres, donc maintenant tout le monde peut faire un peu n'importe quoi avec et ça se voit.
Ah, c'est bien à savoir ça, les droits sont libres par rapport à toute l'œuvre de Lovecraft.
Ouais, parce qu'il a eu le bon goût de mourir il y a plus de 70 ans.
Oui.
Ah, il est mort dans les années 30.
Ouais, 35 peut-être.
Il a dû mourir en 34 ou 35, un truc comme ça. Donc maintenant c'est bon.
C'est bon.
On peut tous faire des trucs avec.
Je pense qu'il y a même encore, même dans les années 50 on pouvait à mon avis.
Un dernier truc. Donc, j'en avais déjà parlé lors du dernier enregistrement, mais vu qu'il n'en restera rien, je vais le redire. Il y a un jeu qui va apparaître, un jeu indépendant qui s'appelle Everything is Dolphin.
Oula.
Donc, oui. Tout est un dauphin.
c'est assez étrange comme, c'est assez énigmatique comme titre.
Oui, très étrange, et le jeu a l'air très étrange aussi, à la fois donc jeu de rôle et plus ou moins livre d'art avec des dessins de dauphins.
Voilà.
Et on voit des images avec des dauphins qui ont une épée et une cotte de maille, et voilà, je sais pas du tout ce que ça peut donner.
D'accord.
Donc, donc c'est aussi un projet Kickstarter.
Ouais.
Et donc il y a Antoine, notre chroniqueur helvétique, qui nous fera un papier sur le sujet lorsque ça sortira, enfin lorsqu'il le recevra.
Écoute, moi j'attendais le jeu de rôle Echoes of Dolphin. Peut-être que celui-là va pouvoir enfin satisfaire mes attentes. Je vais pouvoir enfin incarner un petit dauphin. J'ai toujours rêvé de jouer Flipper. Fais-moi un petit jet en triple saut, triple salto.
En manger du poisson.
Ouais.
En hocher la tête de manière amicale.
Ouais, c'est bien.
Quelques trucs. Tout d'abord, Cyril et moi, nous sommes désolés pour le retard de cette 13e émission due à un micro en panne. Ce qui fait que Cyril a parlé dans le vide pendant à peu près 35 minutes lors du dernier enregistrement. Et ça, voilà, chers auditeurs, c'est cadeau. Je vous ai offert du Cyril silencieux. Parfois, c'est bien, il faut bien le dire. Bon, bref. Donc plus sérieusement, l'émission va un petit peu changer de format. On va essayer de faire des rubriques un petit peu plus courtes avec plus d'intervenants et des invités de qualité.
Oui, donc pas moi.
Oh, mais si, parfaitement.
Ah, d'accord, pardon.
Allons. Comme celui de ce soir. Et voilà. Moi c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, toi de toute façon tu as oublié tes news, donc
bravo.
Oui,
tu assumes, c'est vrai.
tu n'as pas les news que j'avais faites lors de la dernière fois, donc,
doit toujours y avoir le papier peut-être.
Ah,
tu veux regarder?
Ouais. attends, si ça se trouve j'ai toujours mes notes.
Ah ah, t'attends.
Il a organisé ce garçon.
C'est quoi le truc que t'avais écrit Hangout with Lisa Steven?
Ah oui, non, c'est juste que sur Google Plus, là, il va y avoir un petit Hangout, c'est les conférences vidéo.
Ah oui, les trucs.
Où il y aura Peter Atkinson et Lisa Stevens.
Donc Peter Atkinson, c'est Wizards of the Coast,
oui,
Magic, tout ça.
Ouais, celui qui s'occupe de la Gen Con maintenant. Lisa Stevens, c'est Pezzo.
Ah, c'est Pezzo, d'accord, ok. Pezzo qui a sorti le Pathfinder, qui est un peu vu que Donjon s'est fourvoyé avec Donjon 4, ils ont passé en jeu de figurines plus ou moins parce qu'ils voulaient vendre de la figue.
D'accord.
Et en fait, ça n'a pas marché du tout. Et il y a Pathfinder qui s'est engouffré dans la brèche et qui a fait un équivalent de D&D 3.5 qui était la dernière édition en date.
Ouais.
Et ils ont fait un truc super et du coup, ils vendent des millions de bouquins.
Oh putain.
Alors, lors de l'épisode maudit, en fait, j'avais juste donné une news, c'est que. Une petite news sur le. Je parlais du club de lecture de Casus. Dans la rubrique médiathèque, j'avais dit qu'il y avait une initiative pour. Qui avait été lancée pour parler d'un roman différent à chaque fois, entre rôlistes, entre guillemets. Et donc voilà, le premier roman, c'était Mémoria de Laurent Genefort. qui avait été sélectionné par Cédric Ferrand, qui a donc très mauvais goût puisque c'était un mauvais roman.
Laurent Genefort, alias Dr No, qu'on peut écouter
sur l'agence Togeek.
C'est l'agence Togeek, effectivement.
D'accord.
Voilà.
Avec qui j'ai longuement discuté de SF la dernière fois.
Ouais, ouais.
Bah, en fait, le roman est un peu
pas de chance pour ce.
Ouais,
pour
enfin
le
voilà.
Coup.
Mais bon, disons que moi j'avais, c'est comme les films qu'on a apprécié regarder, mais qu'on regardera plus jamais et on les téléchargera pas. Sur des sites de téléchargement légaux.
Oui, moi Rocco et ses sœurs, je l'ai vu plusieurs fois. Hein, c'était bien. Voilà.
Ah oui, parce qu'il y a la version et ses frères et là c'est le et ses sœurs.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Ah, et peut-être
sœurs,
c'est
un peu déviant, c'est ça.
Allez, juste une dernière petite news pour la route.
Bien sûr,
dire que en juin il y aura une nouvelle édition de la série Loup solitaire pour les 20 ans du Grimoire.
Ils en avaient déjà sorti.
Oui, c'est une nouvelle édition.
Ah, c'est une nouvelle édition. Ouais, d'accord. Nouvelle édition. Ah bah c'est cool parce que je n'avais pas la précédente.
Voilà. Et puis je pourrais revenir sur les livres de l'Euro une autre fois, mais il y a une société qui s'appelle Le Morse à walrus-books.com qui se met à faire des livres de l'Euro interactifs. Et la collection Rendez-vous au 14, on a discuté, mais on pourra se le garder pour une autre fois.
Rendez-vous au paragraphe 14. Là. Je sais pas si tu connais ça, Manox.
Non.
C'était dans la série des
quête du Graal.
De la quête du Graal. En fait, quand tu mourais, tu allais au paragraphe 14.
Ah oui, voilà. C'est vrai que ça remonte un peu.
Ah
tout
oui,
ça
remonte à loin.
Ouais.
Bon, alors eh bien ces news sont terminées et donc Cyril va nous parler d'un jeu de SF un petit peu mystérieux. Alors voilà, vas-y, c'est à toi.
Alors, je vais vous parler effectivement d'un jeu de science-fiction que je ne peux pas nommer. Alors, est-ce que c'est un jeu de rôle? Je ne sais pas. J'ai ouvert le...
Tu ne peux pas le nommer?
Je ne peux pas le nommer. Je suis désolé, ça m'est impossible. J'ai ouvert le livre et j'ai commencé à lire. Ils disaient que c'était un jeu narratif. Ils ont parlé de protagoniste.
Ah bon?
Alors, du coup, je regardais la quatrième de couverture pour vérifier. Et le titre, c'est « L'ultime conflit ». Donc je suis rassuré quand même. Ce n'est pas un jeu narrativiste.
D'accord.
C'est dans l'air du temps de mettre des narratifs partout. Ils veulent passer sur Arte, mais c'est juste un jeu de guerre, de baston, etc. Donc c'est un jeu de science-fiction. Bah, je vais vous parler un petit peu du contexte. Dans les années 2020, on va dire, il y a plusieurs scientifiques qui découvrent, qui découvrent des textes et qui commencent à investiguer sur quelque chose qu'on appelle l'arcanotechnologie. Et au bout d'une décennie environ, ils réussissent à créer des applications pratiques. Qui révolutionne en fait le destin du monde, puisque la motrice D, c'est son nom, c'est signe le début de l'énergie gratuite, quoi, en gros. Donc ça résout le problème de l'énergie, la société qu'il produit devient bien sûr du jour au lendemain la plus riche du monde, tout le monde, le contexte géopolitique en est bouleversé.
Et c'est quoi la motrice D, on le sait dans le bouquin?
La motrice D, c'est un moteur qui exploite cette énergie arcano-technologique.
D'accord.
Voilà. Et en fait, c'est des flux qui sont imperméables à la connaissance scientifique traditionnelle.
Okay. C'est un truc un peu étrange, c'est pas trop quoi.
Tout à fait. C'est complètement inhabituel. Il y a du coup une période de croissance assez marquée, hein, avec des états de développement technologique. Dans les années 40, 50, tout va plutôt bien quand même. Et puis, en 2058, à un moment, il y a un vaisseau spatial dont on perd le contact. Et puis, quelques temps après, les quelques colonies qu'on a ici et là dans le système solaire aussi cessent d'émettre. La triste réalité se fait jour en 2059 avec l'attaque des extraterrestres.
Donc, ah merde!
Ouais, l'humanité est attaquée. Il faut se défendre.
Il faut les buter, quoi.
Voilà, à coup de méca.
Donc c'est assez bourrin quand même.
C'est assez bourrin. Donc
on sort les mécas et tout le bazar, quoi. Voilà. La grosse artillerie.
La guerre dure quand même pas mal de temps et elle est menée en fait par. La race ennemie consiste en des créatures proches des humains. qui ont une apparence légèrement différente et qui viennent d'un empire en fait d'un empire galactique. Bon, c'est une race qui voilà qui
une race humanoïde
qui a vocation à conquérir l'univers et on est sur sa route.
Ah merde.
Et puis en 2000...
comme d'hab quoi, j'allais dire.
Voilà. En 2065, après 6 années de guerre, en fait, des éléments de cette race prennent contact avec le gouvernement humain pour oui, parce qu'il y a forcément il y a un gouvernement planétaire qui s'est mis en place quasi instantanément lors de l'attaque des extraterrestres. Rien de mieux pour s'unifier qu'un ennemi commun, bien
voilà,
sûr.
Voilà, ça c'est bien.
Donc on appelle ça le nouveau gouvernement planétaire. Et cette race, qui s'appelle les Nazadil, les extraterrestres, ont pris contact avec le nouveau gouvernement planétaire pour dire qu'ils ont réalisé que toute leur existence était un mensonge. En fait, leur race a été créée à partir du gène, du génome humain, par une autre race extraterrestre, qui les a créés dans le but spécifique de détruire l'humanité.
Ok, donc ah oui, ils sont malins les mecs quoi.
Voilà. Et le problème c'est que les Nazadi, c'est leur nom, le nom de cette race, les Nazadi.
Ils sont victimes d'eux-mêmes en fait, en quelque sorte.
Ne savaient pas, oui, tout à fait, ils ne savaient pas quel était leur vrai destin.
Mmh.
Voilà, donc ça c'est le contexte général. D'accord. C'est le contexte général. Et du coup, les Nazadi qui se sont rebellés contre leur maître. S'allient avec l'humanité et repoussent les vrais extraterrestres qui ont une apparence complètement non humaine. Voilà.
C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une apparence.
Bah, en fait, c'est des sortes de. Ils sont assez horribles. Ils ont des sortes. Enfin, ils volent. Ils ont des sortes d'ailes. Et puis,
merde.
Ils font un peu penser à des insectes quelque part.
Ah oui, c'est moche quoi.
Ouais, c'est assez moche. C'est assez difficile à décrire. C'est un peu indescriptible. Un peu, mais pas trop.
D'accord.
Je dis pas trop parce qu'il y a aussi une illustration. Donc, voilà. Donc ça, voilà, la situation se stabilise. Bon, l'humanité a quand même perdu pas mal de monde, mais
quelques milliards de personnes.
Voilà, j'ai plus le chiffre en tête. Hein, on n'est pas des petits boutiquiers, mais c'est l'ordre d'idée. Donc pour l'instant, il y a une paix qui se met en place. Et puis en 2074, donc 9 ans après la fin de la première guerre arcanotechnologique, c'est son nom, puisqu'elle met en scène
ouais.
les technologies voilà, spéciales qui ont été découvertes depuis le début du 21e siècle. En 2074, éclate la deuxième guerre avec l'arrivée d'une autre armée d'invasion, mais en fait beaucoup plus mécanisée, donc je pense au mot méca. Voilà. Et puis en fait, les ennemis qui sont derrière la création de la race Nazadi ont apparemment pillé les connaissances arcano-technologiques des humains et utilisent les mêmes armes mais à leur avantage.
Bah, t'es en train de nous dire que ces extraterrestres là qu'on a vu un petit peu parce qu'ils volaient au-dessus de nous explosent la race humaine en fait.
Ah, ils explosent la race humaine très clairement puisque il y a en gros, la race humaine, je crois, passe de 8 milliards de membres à plus de 2,5, un truc du style, durant ces guerres.
Ouais.
4 ans plus tard, il y a une pause dans la guerre, mais ce n'est pas une vraie pause, en fait. Tout simplement, il y a d'autres ennemis qui surgissent à la surface même de la planète Terre, sachant que les premiers envahisseurs extraterrestres, eux, viennent plutôt de l'espace. D'une autre planète et les nouveaux ennemis y a certainement des mutations mais il y a aussi des créatures monstrueuses qui sortent de la Terre, on ne sait pas très bien. Je vais décrire les menaces qui font face à l'humanité, sachant que maintenant on considère cette période comme la guerre des éons. Voilà, donc c'est
Et ça, c'est la période à laquelle...
Là, on est en 2085, c'est la grosse guerre. On se dit que c'est la guerre permanente et l'humanité se bat pour sa survie.
Bon, c'est la période du jeu ?
Ouais, c'est la période du jeu. Et on est optimiste parce que quand même, c'est nous les gentils, mais voilà quoi, les menaces sont grandes. Alors, parmi les menaces, il y a d'abord les premiers extraterrestres dont je vous avais parlé, qui viendraient de la planète Pluton. La planète ou de l'astéroïde, je ne sais plus comment on dit. Il y a des monstres qui sont surgis des mers, donc apparemment ils ont des bases sous la mer. Ils ont des.
Oula.
Voilà. Ils ont réussi à convaincre certains humains de s'allier avec eux. Enfin, voilà.
Ils se trouvent partout, ces salauds.
Ouais. Et puis, Il y a aussi une autre faction qui s'infiltre dans la société humaine. Donc c'est assez gênant. Sachant que.
Ils viennent de partout, il y en a partout, quoi.
Oui, tout à fait. La Terre est un champ de bataille. Très
oui,
clairement.
C'est la guerre interstellaire, quoi. Enfin, pas interstellaire, mais.
Et la dernière grande menace, ce sont des sortes de hordes barbares monstrueuses qu'on appelle les disciples de l'innommable. Et qui obéissent à une sorte de maître qui se trouverait sur un plateau mystérieux quelque part en Asie centrale. Et en fait, ces monstres courent dans nos campagnes et on envoie nos mechas pour les égorger, pour éviter qu'ils nous égorgent. Voilà, donc heureusement.
J'ai une question, ils violent pas nos femmes, j'espère. Non
ah bah, ils font des choses horribles parce qu'ensuite il peut y avoir des hybrides, je sais pas qui en sortent.
D'accord.
Heureusement, on a le nouveau gouvernement planétaire, le NGP, qui étant un gouvernement acronyme et sûrement un petit peu dictatorial, totalitaire sur les bords, mais en fait on est en temps de guerre quand même. Mais globalement, c'est quand même les gentils. Hein. C'est pas un gouvernement tyrannique. Sur le papier, ils sont quand même des gentils. Parmi les armées du NGP, il y a nos amis, les protagonistes, pour les vrais rôlistes, les personnages joueurs.
D'accord.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer dans ce jeu ? On peut jouer On peut jouer quoi ? Ah, je me sens. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?
Professeur,
oui.
je crois qu'il devient fou.
Alors, j'ai l'impression qu'il a des petits soucis. Il commence à parler de tas de races bizarres, extraterrestres, extraterrestrielles. Effectivement, je sens que Cyril a l'esprit troublé, l'esprit perturbé.
Vous croyez que c'est grave, professeur ?
Alors, les signes annonciateurs ont l'air quand même assez inquiétants, je dois bien l'avouer.
Je pense qu'on va continuer un petit peu la thérapie pour voir ce que ça donne et, oui. et après on prendra une décision.
Actuellement, il est dans le frigo quand même, donc on peut se poser des questions.
Je prépare la seringue numéro 4.
Merci.
Oula, qu'est-ce qui m'arrive là ? J'ai comme vu une sorte de vision dans la mer, une sorte de ville, de grande tour engloutie. Enfin, oula. Bref, je parlais des personnages joueurs, des protagonistes. Brièvement, on peut appartenir à une des deux races humains ou Nazadi. Donc, les Nazadi ont été créés à partir du génome humain. D'ailleurs, ils ressemblent en gros aux humains. C'est des humains bis, des humains à couleur. Voilà.
Mais ils sont discernables.
Ah oui, tout à fait. Oui. Ouais. Ils ont des signes distinctifs. Tiens, je te passe le bouquin si tu veux. Hop, le feuilleter et regarder. Et on peut jouer quel type de personnage, quel type de profession au service du nouveau gouvernement planétaire contre les monstres. Le plus emblématique, je pense, c'est quand même les pilotes de mecha. Donc les mechas, hein, pour mémoire, c'est des robots de combat géants que tous les fans d'anime connaissent et qui comprennent une sorte de poste de pilotage miniature dans lequel un humain peut se glisser. C'est comme une armure géante de plusieurs mètres de haut. Donc il y a plein de variétés de mechas, c'est rigolo, c'est vraiment pas mal. Il y a aussi une variété de mechas récente, difficile à maîtriser et à construire, mais qui pourrait changer le cours de la guerre. Ce sont les Engels. C'est l'allemand pour ange et ils sont plus grands, plus méchants, mais surtout en fait ils n'ont pas la même origine que les mechas. Ils sont pas fabriqués de la même façon et apparemment pour les Engels, la technologie pour les construire consiste à attirer une créature extraterrestre et à domestiquer son pouvoir quelque part.
D'accord. Voilà, mais les Engels, c'est des sortes de mechas un peu à l'Évangélion avec des ailes, trucs comme ça, ou c'est encore autre chose ? C'est un truc un peu plus.
Ils sont plus organiques, c'est clair.
Ah,
c'est
d'accord.
Sous les plaques de métal se cachent des. On ne sait pas très bien d'ailleurs ce que ça cache, c'est assez horrible apparemment, et il vaut mieux pas savoir finalement ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce qui m'arrive ?
Là, je crois qu'il est passé au stade 2 là.
Alors j'ai l'impression qu'effectivement, en parlant de ces créatures moitié méca, moitié organique, ou un quart méca, un quart organique, on ne sait pas trop. Enfin bref, je sens que Cyril là se retrouve dans le freezer, donc c'est encore plus inquiétant.
Ah oui,
par contre, je crois qu'il est devenu extrêmement souple, ce qui est encore plus inquiétant aussi.
Oui, vous remarquez. Ah oui, il est dans le freezer, effectivement, il a la tête sur une boîte de petits pois surgelés et.
Alors, j'ai une seringue pour lui, pour le calmer un petit peu.
Si vous voulez, je le tiens.
Oui.
Non, pas la piqûre, pas la piqûre.
Attendez, j'ai le marteau, ça devrait bien se passer.
Attention, il bouge ce con.
Ah, allez, tiens, voilà, calme-toi. Allez, continue donc un peu, Cyril. Ah, ça va aller.
Alors, c'est tout flou. Alors, donc je disais, oui, des pilotes de méca, des pilotes d'Angels, mais aussi des sorciers, hein, arcanotechniciens, pardon, qui utilisent l'arcanotechnologie, bon, qui est entre nous quand même la manipulation de forces qui échappent à la science traditionnelle.
Ouh là là, oui, d'accord.
Voilà. Tirer les conclusions que vous voulez, il y a des soldats, etc. On peut jouer des sortes de personnages un peu à la James Bond. Et puis il y a un truc très intéressant aussi, on peut être des sortes de porteurs de symbiotes. Là encore, c'est des symbiotes extraterrestres en quelque sorte. Et on peut utiliser ces. On appelle ça les Taggers, ou Taggers, je ne sais pas comment dire. Et on peut utiliser ces symbiotes pour acquérir des pouvoirs, parfois même se transformer. Ça, c'est assez cool. Ça m'a fait un peu penser d'ailleurs à Rift Atlantis, pour ceux qui connaissent, parce qu'il y a tout un chapitre sur les symbiotes dans le supplément Atlantis pour Rift.
Quand tu dis ça, c'est ceux qui se transforment, ce sont les êtres humains.
Oui, parce qu'ils fusionnent avec le symbiote. Ouais, et le problème, c'est que parfois, ils deviennent un peu zinzin, en fait.
Donc, un mec qui a été tagué, entre guillemets, enfin, symbiotisé, il peut quand même piloter un méca?
Non, ah. Parce qu'il y a une sorte de conflit entre la créature symbiote et les contraintes pour l'interface entre l'homme et le méca, ou entre l'homme et l'angle. Donc l'angel. Bref. Donc quel système à utiliser là-dedans? Bah, je vous rassure, c'est non plus pas un système narrativiste. C'est un vrai système avec des dés. Regarde pas comme ça.
Bien bourrin quoi.
Non, en fait, bon, c'est un système en gros avec caractéristiques compétences. On lance autant de dés qu'on a de points dans la compétence.
C'est quoi, des 6, des 20, des...
C'est des D10.
D10.
Je sais pas de conneries, il me semble que c'est des D10, oui. On utilise le meilleur score et on ajoute la caractéristique, et il faut atteindre le niveau de difficulté. Sachant qu'il y a une petite subtilité, c'est par exemple si je lance 3D et que je fais des. Je sais pas, 5, 5, 8, ben en fait je peux aussi choisir, au lieu de prendre le 8, d'additionner les deux 5, ça fait 10.
D'accord, donc en fait on peut, selon ce qui tombe sur l'écran, enfin sur la table, on peut choisir ses propres combinaisons.
Oui, enfin on peut choisir, sachant qu'il n'y a aucun intérêt à choisir le plus bas, mais il y a plusieurs moyens d'additionner, enfin d'avoir un résultat, et forcément ça accentue l'intérêt de lancer des dés. C'est
plus tu peux lancer des dés, plus tu as de chances de faire,
oui,
enfin, c'est logique,
plus,
en même temps,
plus mais... tu as de chances de faire des, voilà, des doublons, des triplés, et ça peut aller loin du coup. Bah, c'est un peu le système de critique local, enfin, on va dire. Voilà, donc je vous ai parlé de tout ça. Moi, ça m'a fait un peu, ce jeu m'a fait un peu penser à Aeon Trinity, pour ceux qui connaissent. C'était un jeu qui avait été Aeon, édité par White Wolf. White Wolf qui a fusionné avec CCP l'éditeur d'Evil Online.
Oh, et d'ailleurs, c'était au début, c'était Aeon, et c'était devenu Trinity par la
oui,
suite,
moi,
pour un problème de droit nom.
C'est Viacom, c'est des débiles, c'est une méga corporation du divertissement américaine.
Ah oui, avec
qui avait fait un sur MTV
avec plus d'avocats que de créatifs, quoi.
Ouais, c'est ça. qui avait sur TV un dessin animé, si je me souviens bien, qui s'appelait Aeon. Et du coup, comme
c'est pour ça que ça me dit quelque chose.
Ah, possible, ouais. Enfin, ouais. Bref. Pourquoi je compare? Parce que, en gros, les gouvernements humains sont quand même les gentils dans Trinity. C'est la même chose ici, dans ce jeu qui ne peut pas être nommé. Et les menaces sont à la fois internes et externes, comme ici. On a des créatures qui s'infiltrent dans notre société humaine. Et il y a
comme
vraiment...
comme le chat qui est en train de passer sous le...
voilà.
Il est tagué, lui, je pense.
Et il y a un combat militaire avec aussi des
gros mécas.
De belles bêtes mécaniques.
Donc on peut faire un peu genre un peu bidasse et tout, armée, compagnie, quoi.
Ouais. On peut, je pense, jouer au jeu comme on peut jouer à Heavy Gear. Pour ceux qui se souviennent du jeu, c'était un jeu super sympa, édité par Trimpod 9. Avec des mechas, et je vais jouer un petit peu, et l'univers était sympa, et on peut passer du jeu un peu militaire au jeu d'enquête, etc., ou de vie à côté, ou alors de, on peut passer de l'opérationnel au tactique au stratégique, enfin à plusieurs degrés d'implication militaire. C'est quand même, je pense par vocation, plutôt un jeu où il y a une bonne scène de baston par scénario.
On peut jouer des Nazadil ou pas?
Oui, on peut jouer des Nazadil. Les Nazadil sont les gentils. Parce qu'en fait,
parce que comme ils sont du côté humain maintenant, on peut les interpréter eux.
Ils ont compris qu'ils avaient été créés de nulle part et que toute leur histoire écrite, en fait, c'était du bluff, en quelque sorte. Du coup, ils se sont impliqués à fond. Enfin, ils ont fait une alliance sincère. Ils ont rejoint le gouvernement planétaire.
D'accord.
Ouais, maintenant, ils sont considérés comme les humains. Alors, il est temps peut-être de lever le voile, de dire.
Attention! Je vois qu'effectivement.
Il s'agit de professeurs.
Des tentacules!
Je vois effectivement des tentacules terribles et absolument immondes et pleines de coca et d'orangina bad jack, c'est-à-dire le truc le plus dégueulasse, qui sortent des oreilles de Cyril, est dans le freezer. Donc je pense que ça me fait penser à quelque chose, mais ma mémoire. Flanche.
Cthulhu Ftagn! Cthulhu Ftagn!
Mon Dieu, vite, piquez-le!
Alors, je ne me permettrai pas de prononcer le nom en direct, hein, parce que ça ferait. Je ne veux pas perdre de points de santé mentale, mais je pense que vous avez peut-être une petite information.
Oui, je viens de réaliser, mais ce jeu, c'est l'appel de Cthulhu dans l'espace.
Ah!
Oh Dieu, mon maître, Cthulhu! Ce jeu s'appelle Cthulhu Tech. Et c'est une adaptation de l'appel de Cthulhu dans un contexte de science-fiction au niveau du système solaire, avec des mechas, avec des combats bourrins et moins les enquêtes interminables et les dialogues savoureux qui ont bercé notre enfance lorsque nous combattions les masques de Nyarlathotep, qui se trouvent aussi dans ce bouquin.
Ah,
avec ses potes Cthulhu, Azathoth, Yoxotot.
Mais alors, est-ce qu'on arrive à comprendre clairement le lien entre les extraterrestres, Cthulhu, enfin bon.
Alors, les extraterrestres,
est-ce que c'est bien amené?
C'est les Migos. C'est les Migos qui vivent sur Pluton et qui sont aussi sur la planète Terre dans les œuvres de Lovecraft.
C'est déjà ceux qui sont dans Delta Green, les Migos.
Ils font partie intégrante du mythe de Cthulhu. Ils sont non seulement dans Delta Green, mais aussi
je veux dire, ils étaient déjà intégrés dans le mythe au niveau contemporain et là, ils sont.
Parce que j'en ai à côté de moi, c'est pour ça.
En fait. je pense qu'ils ont. Alors, je connais pas. Dans le bestiaire qu'ils ont écrit, je connais pas tous les monstres. Mais globalement, ils ont conservé tout simplement les grands classiques.
Ouais.
Ils les ont fait sortir du bois, mais dans le futur. Mm-hmm. Donc, il y a les Migos qui constatent que l'humanité s'étend dans le système solaire. Ils aiment pas ça. Ils décident de l'exterminer une bonne fois pour toutes. Ils créent les Nazadis pour exterminer les humains. Les Nazadis comprennent, rejoignent les humains. Les Migos capturent les secrets de l'arcane technologie auprès des humains et font des armes à peu près identiques pour lutter à armes égales, lancent une autre offensive. Par ailleurs, les autres cultes sortent du bois. Il y a Cthulhu, l'ordre de Dagon, etc. dans les mers, il y a Astur, l'indicible, sur le plateau de Leng en Asie.
Astur, oh merde.
Voilà, avec les
tu le dis trois
avec
fois,
les disciples de l'innommable. Et puis il y a notre ami Nyarlathotep avec sa secte des enfants du chaos qui s'infiltre et qui font des tas de trucs horribles.
C'est lequel déjà qui joue de la flûte et tout ça?
Je sais pas, il y a Shub-Niggurath, non, c'est pas.
C'est peut-être Shub-Niggurath, ouais.
En fait, ça pourrait pas être considéré comme une suite de l'appel de Cthulhu.
Clairement, en fait, c'est un jeu qui montre, pour moi, que l'âge de notre loisir. En fait, on est en 2012. Le premier jeu sur l'appel de Cthulhu, je sais pas quand il est sorti, je me souviens pas, mais des années 80.
Fin 80, je pense.
Et en fait, ce jeu se nourrit de notre pratique passée. Il n'aurait pas pu exister sans l'appel de Cthulhu, c'est clair. C'est un jeu d'héritier, un jeu post-cthulhuien, post-moderne, mais post-appelien.
C'est un peu le Cthulhu moderne, quoi, grosso modo. Enfin, l'appel de Cthulhu moderne.
Voilà. Sachant que c'est pas le premier à explorer des variations de l'appel de Cthulhu. T'as parlé de Arctum Cthulhu, mais ça c'est plus récent.
Oui.
Cthulhu
90.
Je suis allé vérifier sur le GROG. Alors Cthulhu 90, ça date effectivement d'un bail. Il y a eu en 95 aussi, donc je t'en avais parlé l'autre fois, GURPS Cthulhu Punk. qui est une version cyberpunk du ouais, c'était dans l'air du temps hein, les années 90 et tout
ouais,
quoi, et qui se passait en 2045.
C'est que Toulouse il a un chien.
Et là, donc, bah, c'est Cthulhu Tech, c'est en 2085, 40 ans plus tard. C'est pas le même univers, mais c'est intéressant de voir la progression. Le jeu est paru en 2007. Hein, et, là, il est traduit en français par la Bibliothèque Interdite. Il est sorti quand en français?
C'est un jeu américain?
En 2011. Oui, c'est un jeu américain.
D'accord.
Ouais.
Et c'est probablement l'une des dernières traductions de la Bibliothèque Interdite, d'ailleurs.
Ouais, je sais pas. Je pense que. Enfin, bref, donc en fait, j'ai une théorie par rapport à tout ça, par rapport à, au fait qu'il y a plein de déclinaisons de l'appel de Cthulhu et qu'on l'apprécie d'autant plus qu'on a joué à l'appel de Cthulhu. Donc c'est comme retrouver un ami d'enfance, mais différent et qui vous offre une expérience différente.
Mais avec une crête verte.
Oui, et avec des gros flingues et un méca quand même, ça change un peu quoi.
En fait, oui, d'ailleurs, pour bien clarifier, hein, c'est l'appel de Cthulhu dans le futur, mais ce n'est pas l'appel de Cthulhu dans le futur. Donc, on peut faire de l'investigation. Je pense que c'est une partie importante des aventures, mais contrairement à l'appel de Cthulhu, il y a vraiment un côté baston et un côté jouissif avec les équipements mutants, etc. On peut être sorcier, on peut faire des tas de choses. Donc ça c'est le gameplay, la façon de jouer est complètement différente. En fait, cette créativité par rapport à toutes ces déclinaisons de l'appel de Cthulhu a été rendue possible, on en a parlé, par l'expiration des droits d'auteur. On ne verra pas, et c'est dommage, la transformation en jeu de science-fiction d'autres classiques dont les droits ne sont pas expirés. Donc on ne verra pas l'invasion de la Terre par une flotte de l'Empire de Star Wars qui s'est perdue dans un trou noir.
Ah non, ça c'est sûr, c'est
ça,
pas pour
ça aurait été sympa. Hein, on ne verra pas les Néphilim dans l'espace, quoique on pourrait, parce qu'après tout, rien n'empêche. Ou alors Conan dans l'espace, pourquoi pas.
Par contre, est-ce que là, les êtres humains combattent dans l'espace ou pas?
Oui. Alors l'accent n'est pas mis. L'accent n'a pas été mis en tout cas sur les combats spatiaux, c'est plutôt le combat terrestre en fait.
D'accord.
Avec des mécas, enfin, d'ailleurs c'est logique quelque part, si tu veux pouvoir faire interagir par exemple des joueurs de manière la plus facile possible, le combat spatial c'est tout de suite plus, ça se prête moins à une petite équipe de joueurs qui puissent interagir ensemble. Là, même si, d'après les scénarios qui sont présentés dans le bouquin, on a tendance à penser que ça pourrait être, par exemple, une équipe de pilotes de méca, ou alors une équipe de piétons.
Oui, parce que tu parles aussi de l'aspect stratégique, donc à la limite, on pourrait se dire qu'effectivement, il y a des groupes armés, et donc ça pourrait fonctionner en tant que groupe armé pour une action, une intervention, etc. Quoi.
Je pense. En fait... C'est pas non plus c'est un peu
c'est pas trop compliqué à ce niveau-là ou pas, où ça semblait assez
tu veux dire au niveau des règles ou
non, pas au niveau des règles, au niveau plutôt
au niveau
de
l'organisation aussi, un petit peu, dans le sens où quand même c'est à chacun, en fait, de c'est à chaque MJ de vraiment décider. Il est pas entièrement pris dans la main comme dans l'appel de Cthulhu. Je trouve que il y a plein de façons possibles de jouer ce jeu. Je sais pas quelle est la plus marrante, mais mon intuition, c'est que c'est un peu comme dans Trinity, Ion Trinity, c'est-à-dire qu'un petit peu d'enquête pour voir, pour faire une mission, peut-être un point de départ, une mission, ensuite une enquête pour voir où ça en est, qui sont les méchants, où ils sont, que faire, etc. Une bonne scène de baston et au lit les amis, quoi. Enfin.
Oui. D'accord.
Mais voilà, mais je pense que tu vas pouvoir jouer aussi une campagne entière d'investigation, mais je pense que ce serait passé un peu à côté du fun. J'en sais rien en fait. J'aimerais bien tester le jeu parce que à la lecture, ça donne envie vraiment de jouer.
Ouais. En plus, d'après ce que j'ai vu sur le bouquin, il est bien fait le bouquin, il a l'air assez beau.
Magnifique, hein, les illustrations sont.
Les illustrations sont top,
très classieuses. Il y a beaucoup d'illustrateurs différents, je crois.
C'est assez attractif en tout cas, quand on feuillette comme ça. Et il y a le même système de points de perte de folie, enfin de points de folie, etc.
Ouais, alors c'est pas le système exactement de la
santé mentale, ouais, voilà.
Mais t'as effectivement de la folie, et si tu fricotes, comme je l'ai dit, avec la magie.
Fricotes.
Mais c'est aussi important dans l'appel de Toulouse. Vraiment, santé mentale, c'était.
C'est ce qui fait aussi le.
C'est ce qui limitait toutes tes actions.
Oui. Il y avait un impact sur la façon dont tu jouais.
Ouais, tout à fait. Mais parce que l'impact, c'est que tu évites de voir. Enfin, en fait, tu es attiré par. Enfin, tu veux résoudre les mystères, donc tu t'approches de l'horreur. Mais en même temps, en tant que joueur, ton intérêt est d'éviter cette horreur pour que ton personnage survive. Donc, il faut aller à la frontière de la perception. Et c'est assez amusant. Il n'y a pas trop système là-dedans.
Ouais, parce qu'ils font la guerre contre ça, donc ils le voient. Enfin, ils sont confrontés de face.
Alors,
quoi.
Alors là, effectivement, ils sont confrontés de face, mais c'est quand même pas mal caché. Ils n'ont pas tous compris. Là, je vous ai évoqué donc Cthulhu, etc. Mais les gens comprennent pas exactement la nature du mythe, etc. Mm-hmm. Et ce qu'ils comprennent en revanche, c'est que l'arcanotechnologie, l'esprit humain n'est pas fait pour ça, pour comprendre comment fonctionne l'univers, genre de choses, et que ça le dérègle. Et du coup, donc ils ont des cliniques où on est obligé de passer pour faire un détail psychologique, genre de choses. C'est assez surveillé.
N'est-ce pas, professeur?
Oui, alors, excusez-moi, j'étais en train de me battre avec une tentacule. Elle a essayé de me rentrer là où je porte. Enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail. Sacré vicieux, hein, les potes à Cthulhu, hein, faut qu'il te le dise.
Ah, imagine Cthulhu en string.
Voilà. Cthulhu, je viens, j'arrive.
Ah, je suis à toi.
Ça y est, il est perdu, le garçon. Vite, fermez le placard, fermez le frigo, là.
Allez, une juste pour la route. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Cthulhu Tech. Je vous le recommande. Je l'ai pas testé en partie, mais ça m'a donné envie de le faire. J'ai pas lu les nouvelles qui sont là-dedans, donc j'ai peut-être loupé une partie du feeling du jeu. Mais
souvent c'est mal écrit.
Je sais pas, mais en tout cas en lisant l'historique, les salles de description des factions, des mechas, etc., des armes, ça donne envie de passer un peu de temps dans cet univers. Et puis tout le monde autour de la table connaît l'appel de Cthulhu, enfin beaucoup de gens vont connaître l'appel de Cthulhu, et ça leur fera aussi un petit kick pour voilà.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Cyril.
Merci. Merci Cyril. Et merci. Bien.
Et bien, on reste un petit peu toujours dans le même type d'univers finalement, puisque j'ai moi aussi un jeu qui se consacre à l'horreur et à l'occulte. Puisqu'il s'agit de Maléfice. C'est plutôt du zombie là. Donc c'est quoi cette bête là?
C'est des Maléfices.
Donc Maléfice est paru donc c'est un jeu assez ancien, puisqu'il est paru en 85 chez Descartes. Il a été réédité quelques années plus tard, puis il est reparu aux éditions du Club Pythagore, donc dirigé par son auteur, fin 2006, et donc c'est de cette édition dont je vais vous parler. Donc c'est aussi un bouquin qui fait dans les 300 pages, enfin 280 pages pour 39€. Donc sur la forme, c'est une mise en page classique, donc voilà, c'est trois colonnes, voilà, assez une mise en page assez sage, mais bon, qui s'accorde bien avec le sujet traité. Les illustrations sont super belles parce que ce sont des extraits de journaux d'époque, des photos de lieux, d'objets, de personnages. C'est vraiment tout pour pouvoir se plonger dans ce début du XXe siècle. Maléfice, c'est avant tout un jeu d'ambiance où plane le surnaturel sans qu'on sache vraiment si c'en est ou si...
Ça n'est pas.
ou pas. qui se situe donc à la Belle Époque. Et plus globalement entre 1870 et 1914, donc la Troisième République, tout ça, une période qui est finalement pas très connue, mais qui est super intéressante, Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a quelque chose qui est vraiment super bien foutu, c'est que tu as vraiment tout pour te plonger dans l'ambiance de cette époque, avec à la fois la vie quotidienne, la vie culturelle, intellectuelle, sociale, les transformations du pays. C'est la deuxième révolution industrielle, c'est le moment où il y a les premières usines qui se mettent en place. Il y a également les débuts du féminisme. C'est aussi la période de la Commune,
ouais.
de la Commune de Paris. C'est une période qui est hyper politisée. Au niveau scientifique, c'est un essor aussi très important. Mais ce qui est amusant, c'est un peu comme à la Renaissance. C'est-à-dire c'est à la fois une période de grande richesse scientifique, et en même temps, tu as une espèce de retour de l'occulte. Les gens s'intéressent, font tourner les tables.
Les sorcières, etc.
Disons le contexte est un peu urbain, c'est-à-dire où c'est quand même centré sur la vie en ville, où on joue en général des personnages d'un certain niveau social. Parce que c'est les seuls qui ont du temps devant eux, parce que si tu travailles à la chaîne 12 heures par jour,
ah oui.
t'as pas trop envie de faire des enquêtes quand tu rentres chez toi le soir.
C'est Germinal. C'est l'époque, hein. C'est oui. quoi, 1880.
Ça doit être à peu près cette époque-là. Donc on joue plutôt des petits bourgeois, des artistes, des intellectuels,
des mécènes, trucs comme ça.
Ouais, voilà, des gens qui ont à la fois un petit peu de temps et d'argent pour pouvoir suivre la piste d'un fantôme ou quelque chose comme ça.
On joue des rôlistes.
Donc, contrairement à un Cthulhu, on va croiser des Shoggoths et des créatures extraterrestres. Là, c'est des trucs qui sont un peu plus ancrés dans l'histoire. Donc, des manifestations démoniaques, des fantômes, tout ce qui est vraiment lié à l'occulte classique, on va dire.
Tu dirais que là, peut-être où l'appel de Cthulhu, c'est vraiment un jeu d'horreur. Ça, ouais. C'est plutôt un jeu fantastique, c'est-à-dire où ça surfe entre le monde rationnel tel qu'on le connaît,
ouais,
et puis
fait.
Peut-être autre chose, mais sans forcément développer toute une mythologie derrière.
Non, voilà, c'est ça. C'est toujours à la limite du surnaturel. Il peut très bien y avoir des scénarios où il n'y a pas vraiment de surnaturel.
Mais il y a de l'angoisse quand même aussi.
Oui, voilà, c'est presque plus ça, c'est presque plus de l'angoisse où on va titiller le fantastique, mais sans vraiment y toucher. Et ce qui donne au jeu un côté plus réaliste moins trash qui va moins chercher dans des trucs extrêmes. On reste dans le quotidien malgré tout.
Maléfice.
Il y a donc tout ce contexte qui est extrêmement extrêmement développé. C'est extrêmement bien écrit. Franchement, c'est passionnant. Je le lis en fait rien que pour avoir le plaisir de la lecture, pour avoir des infos sur une période que je connais pas.
Ce que tu dis, ça fait vraiment penser à d'autres jeux qui historique, Tanga que j'ai lu récemment,
oui,
grâce à toi,
ouais.
Ou alors Tédéum pour un massacre, Pavillon Noir, jeux documentés où les auteurs ont su extraire le suc d'une époque, qui en fait son charme et à le mettre dans leur.
Ouais,
dans
tout
leur
à fait. Dans ceux que tu as cités, c'est Tédéum pour un massacre qui s'en rapproche le plus. Donc Tédéum abordait les guerres de religion du XVIe siècle. Du 16e siècle. Là, ça aborde le début du 20e siècle, comme ça, avec le côté très très terre à terre, très super documenté, où tu as ça va de la mode aux endroits où les gens vont boire des coups et danser.
Donc, faut bien s'imprégner du contexte de l'époque.
Voilà, c'est vraiment tout est basé là-dessus, et les scénarios eux-mêmes ils font amplement appel. Donc, par exemple, dans le bouquin de base, il y a deux scénarios qui sont fournis. Le premier est un scénario très simple qui est fait pour les débutants, très linéaire, mais qui aborde, par exemple, le thème du grand guignol. Alors, qu'est-ce que le grand guignol maintenant? Alors, en fait, c'est vachement marrant parce que c'est un peu le cinéma. Enfin, c'est un peu de la série B en théâtre, en fait. C'est les gens allaient voir une pièce de théâtre dans laquelle il y avait des gens qui se faisaient couper en morceaux ou qui se faisaient arracher les yeux avec moult effets spéciaux faits à la main.
C'est aussi l'époque, si je puis me permettre, du pétoman.
Ah, oula, grande époque.
Oh, Mizou.
Qui s'appelait René Pujol, hein, du style.
Ah oui, c'est vrai, tu... Ok, d'accord. Bon. Ça mériterait un scénario. Un scénario Maléfice avec le pétoman.
Oh la vache.
Voilà.
Le Maléfice du pétoman.
Et donc, oui, voilà, donc le grand guignol qui est cette espèce d'un théâtre d'horreur où les femmes s'évanouissaient éventuellement pendant les représentations. Quand il mettait en scène un tueur qui va tuer une femme et lui arracher les yeux, et donc tu vois les trucs, voilà, bref. Et dans le scénario en question, ils vont dans une représentation de ce type de théâtre, et effectivement, il y a un meurtre, tatin.
Ah oui.
Voilà. Et le second scénario qui est beaucoup plus long, beaucoup plus développé, avec une richesse documentaire qui est incroyable. t'as carrément un... déjà j'en pose un peu les bases. C'est les personnages font partie d'un espèce de club en gros c'est les fans d'Arthur Rimbaud.
D'accord.
Et ils se rendent à Charleville, Mézières, qui est donc la ville de naissance d'Arthur Rimbaud, pour une conférence, un truc comme ça. Et donc il se passe des choses. Il y a quelqu'un qui est victime d'une tentative de meurtre. Et donc ils vont à l'hôtel pour se reposer. Et à leur porte le lendemain matin, ils ont donc l'exemplaire du journal, donc le petit Ardennais. Et il y a toutes les pages de ce petit journal qui est fourni dans ce livre. Ah oui. Donc tu peux vraiment donner des aides de jeu qui sont
réelles, quoi, en fait.
Voilà, qui sont réelles, où t'as tout dedans. Alors, je sais pas si ça a été retravaillé ou pas, je suppose qu'ils ont mis des trucs dedans à eux. Voilà. Mais toujours est-il que dans la forme, c'est vraiment les journaux de cette époque. Et c'est vraiment génial, tu peux te plonger dedans corps et bien.
C'était quoi les titres? Il y avait le petit journal, il y avait quoi?
Il y a le Figaro.
Ah oui, oui, oui.
Il y en a plein, il y a un panorama.
Et le matin, non c'est... En fait, les journaux qu'on voit dans le kiosque de nos jours, c'est... Enfin, il n'y a pas de survivants de cette époque, ou quasiment pas.
Ah mais si, il y a au moins le Figaro. Il y a le Figaro, il y a l'Humanité, il y a le Gaulois, le Temps, le Matin, l'Univers, Excelsior, Journal illustré quotidien.
Excelsior, donc, qui est l'ancêtre de Jeu des cartes.
Oui, c'est vrai que c'est Excelsior, ouais, tout à fait. Hein.
C'était le...
88, Champs-Élysées, Paris.
Paris. Attention, madame, messieurs. Un maléfice règne dans la ville. Que se passe-t-il?
Oh, je ne sais pas, madame. J'aimerais bien faire un tour au théâtre.
C'est sympa comme jeu, quoi.
Ouais, c'est...
Est-ce qu'il y a un peu le syndrome l'appel de Cthulhu, fameusement résumé, je ne sais plus, par... je ne sais plus quel auteur ou journaliste dans Casus Belli, peut-être, à un moment, c'est... Le principe, c'est que tu reçois une lettre d'un lointain cousin que tu as vu une fois dans ta vie. Du coup, tu laisses tomber ton boulot, tu rassembles quelques amis et tu décides de...
Je me souviens d'aller mourir, quoi.
Je me souviens de ça, c'était... Oh, je reçois une lettre d'un oncle dont j'ignorais absolument l'existence qui me dit d'aller dans un endroit inconnu. Pas de problème, je réunis quelques vagues copains et je laisse tout tomber et j'y vais.
C'est un peu le même principe.
Ouais, plus ou moins.
Peut-être que les scénarios amènent bien les personnages.
Disons que a priori, les scénarios sont pas. Enfin, j'ai pas ressenti ça. En tout cas, c'est pas vraiment fait pour que tu reprennes un personnage d'une.
C'est plutôt des personnages one shot en fonction du scénario.
Ouais, je pense. D'accord. Je pense que c'est plutôt basé là-dessus parce que, par exemple, là, ce sont tous des personnages qui sont membres du fan club de Rimbaud et tu vas pas faire que des personnages qui font ça. Pendant tout le long des scénarios, quoi.
Ouais, ouais. Faut que c'est pour être une amorce, quoi. un point de démarrage, et puis finalement, après le personnage.
Oui, après ils deviennent potes et ils font des trucs ensemble.
Ouais, et après ça devient un mec qui a un fusil à pompe, enfin bon, des trucs comme ça, quoi.
et un fusil à éléphant et de la dynamite. Et
Il sait super. Oui, voilà. Il est historien, mais il tire très bien avec son flingue.
Ouais, voilà, c'est. Ouais, mais tu comprends, il va à la chasse le dimanche.
Oui, c'est vrai, il y a des trucs comme ça, quoi. Et puis il est expert en arts martiaux. Oui, mais c'est parce qu'il est parti au Japon, il était très riche avec sa famille et tout. Il manie le sabre, le katana.
Ça y est, il est déjà en train de pourrir le jeu.
Avec un fusil à pompe dans une main et un katana dans l'autre. Ouais, pas de problème.
Je vois tout de suite, t'es le genre de joueur qui embobine le MJ, la maître de jeu et.
Non, mais il y a toujours une logique, hein, de toute façon. Donc, ouais, bon.
Même si elle a un poil foireuse.
Et puis, c'est aussi le dandy, un peu le damoiseau du quartier, donc il est beau gosse en passant, voilà quoi.
Ah, mais cela dit, on peut avoir des compétences à l'épée parce que c'est l'époque des duels.
Ah, oui, c'est vrai.
Ouais, il y a même une photo du duel entre Léon Blum et l'un des ancêtres de Francis Weber.
Justement, son personnage à lui, c'est un dueliste Highlander qui vient de la nuit des temps. Et...
c'est ça.
Arrêtez-le.
Et au moins, lui, il est sûr de pas trop se faire crever.
Tu joues un notaire qui fait de la philatélie et qui est contacté par une vague connaissance pour aller enquêter sur un mystérieux meurtre dans un théâtre. Okay,
c'est vrai, mais j'étais un.
Non, c'était à poil.
Mais je fais aussi de la hétérophilie comme hobby, quoi. Donc c'est très fort. Et je me viens aussi dans les cirques, tu vois, genre Mister Muscle, c'était moi.
Et puis tu as fait des missions en Afrique où tu as découvert d'anciens secrets qui te permettent d'invoquer
oui,
des
créatures. Oui, c'est ça, je connais un peu la magie noire, quoi.
Mais en, vite fait, en copain, tu vois. Ouais.
Non, mais c'est vrai qu'on est obligé de jouer des personnages. Enfin, on est obligé. Il faut jouer des personnages un peu plus. C'est de l'investigation en plus.
Oui, voilà, c'est plutôt des petits bourgeois qui font oh là là, comme c'est. Oh là, comme...
En fait, ça se passe avant le pulp, avant l'époque du pulp.
Ouais. Donc il n'y a pas
interdit,
encore.
Interdit, tu peux pas.
Tu peux pas conduire des biplans poursuivis par des dinosaures dans une vallée perdue.
Par contre, tu peux conduire un biplan. Non, mais c'est un peu limite.
Tu peux, si le MJ veut se débarrasser de toi rapidement.
C'est vrai.
Tu vois un biplan, il y a la clé sur le.
Les frères Wright, c'est quand
C'est pas 1899 ou 1900, non, je sais
Ah
pas.
Ouais, donc ça doit être faisable, mais vraiment, c'est les premiers, donc vraiment, t'as quand même des chances.
C'est si le MJ veut se débarrasser de toi.
Et vous avez joué à Maléfice, tous les deux
Tous les deux. Enfin, moi, j'ai fait une partie il y a très longtemps, c'était très sympa.
Idem, j'ai fait peut-être plutôt 2-3 parties, mais il y a au moins encore aussi longtemps et je m'en souviens
moi
6
ou 7 ans je me souviens on faisait chacun des journalistes c'était un multitable, on faisait chacun des journalistes, nous on faisait un journal d'extrême gauche et on mettait des gros bobards dans le journal des grosses extrapolations de ce que les gens disaient, il y avait une histoire avec un crâne, les catacombes, enfin bref.
En fait, là, c'est marrant parce que vous parlez de. Enfin, tout à l'heure, on a eu un jeu qui était vraiment moderne, axé sur l'action.
Ouais.
Et là, on revient sur des jeux plus.
Plus enquête, découverte finalement d'aspects de la vie quotidienne.
Est-ce qu'il y a des règles de combat?
Ah.
Alors oui, et alors d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était excessivement complexe et pas très bien foutu.
C'est pour faire peur aux MJ, aux joueurs, pour qu'ils évitent de faire des combats.
Ouais, non mais en fait, t'as un système de localisation qui est super précis. Alors ça m'a vraiment étonné. Je me suis dit, mais à quoi bon savoir que tu vas tirer dans le mollet du mec
Peut-être qu'il voulait aspect ça sur l'aspect réaliste, justement.
Ou descriptif.
Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est l'histoire de faire un monde qui soit complètement cohérent, dans lequel on puisse faire ce type d'action. Mais le problème, c'est que, à mon sens, c'est que c'est pas un jeu qui est fait pour faire ça. Et si tu dois faire une action comme ça, je pense qu'il vaut mieux la régler en.
Tu as utilisé des mots
narratif.
Des mots interdits.
Je t'emmerde. Mais je, voilà, mais justement, je pense que.
Et c'est pour ça qu'ils font peut-être un système de localisation, parce que ce qui est important, c'est de savoir où sera située la blessure afin de l'utiliser comme un élément descriptif ensuite, par la suite, non? Je sais pas.
Ouais, oui, je sais pas.
Plus et que après, de compter les points de vie.
Et
ou...
après, tu auras les peut-être, véritables ouais. effets de la gangrène sur tes membres, ou je sais pas quoi, mais.
Ouais.
Ouais, je sais pas, je trouve que c'est un poil abusé pour ce type de jeu, parce que c'est pas, l'intérêt n'est pas du tout là.
Ouais.
Et puis quand bien même tu te fais tirer dessus là où ça arrange le plus le MJ. Alors, pour la partie.
Et l'aspect occulte dans le jeu.
Oui, il est assez développé. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses dans le bouquin.
Je veux dire en tant que joueur par rapport aux compétences, est-ce que justement
Non, pas du tout. Pas du tout.
Ah d'accord.
Pas du tout. Non, tu es quelqu'un de complètement normal.
T'as pas du tout la main sur ça. T'as pas du tout la main occulte.
Oh putain.
Non mais je sais pas.
Vache.
C'est vrai.
Ça rappe hein, quand même.
Ouais, c'est nul. Désolé. Mais j'ai un quota à respecter, quoi.
De blagues nulles, ouais. Non, donc voilà, les personnages, contrairement à Cthulhu, où quand même t'as toujours plus ou moins la possibilité de faire en sorte que le personnage... Oui, mon personnage est occultiste ou machin, tout ça, c'est... Mais c'est pas trop l'état d'esprit, en fait, j'ai l'impression, de Maléfice. C'est plutôt des gens...
Découverte, oui.
Ouais, des gens normaux qui se servent de leur intellect et de leur connaissance pour suivre une enquête et découvrir effectivement des choses bizarres. Mais c'est pas du tout, il y a pas un mythe derrière, finalement il y a pas grand chose à découvrir au-delà de la du moteur du scénario.
Mais tu veux dire que c'est un jeu dans lequel on meurt difficilement a priori?
Ouais, en tout cas c'est pas le moteur du jeu comme ça peut l'être dans le Cthulhu. Non, là c'est vraiment c'est plus la résolution de l'enquête que le fait de savoir que le personnage va devenir fou furieux.
C'est pas un jeu jambon beurre bière dans le sens où il faut, c'est ça, c'est cérébral, il faut vraiment réfléchir.
Là, puis c'est mieux de se plonger un peu dans l'état d'esprit pour avoir un langage un peu châtié et usé de circonvolution pour s'exprimer.
Oh la vache. Ah pardon, c'est... Oh madame. Quelle bobe idée.
Quelle bobe idée. Et je me chie dessus, ça donnerait quoi?
Oh mince.
Oh mince.
Oh mince.
J'ai déféqué sous moi.
Il m'a semblé avoir souillé mon pantalon.
Donc oui, voilà, un très très bon jeu, un jeu qui, comme Cthulhu, finalement ne vaut que par ses scénarios, et malgré la date à laquelle il a été créé, il n'y a pas énormément de scénarios, il y en a, je crois qu'il doit y en avoir une quinzaine à tout casser.
C'est déjà pas mal, non?
Oui.
Ils ne se font pas une soirée, si?
Ah ben non, ils se font. Ben, ils ne se jouent peut-être pas tous en une soirée, effectivement. Mais cependant, quand tu vois la pléthore de suppléments qu'il peut y avoir pour Cthulhu, t'as des campagnes complètes.
Là, c'est là, nettement plus modeste, quoi.
Ouais, voilà.
En même temps, on les connaît les campagnes de Cthulhu, on les finit jamais.
Oui.
T'as le temps d'avoir ton groupe qui fait des enfants et qui leur apprend à jouer au jeu de rôle.
non, qui leur apprend à se battre au cadenas et à tirer au fusil.
Voilà, l'essentiel pour servir, c'est mieux, quoi. C'est bien de réfléchir, mais enfin bon.
Comme Beyond of the Mountain of Madness qui doit traîner quelque part par là dans ma ludothèque.
Et Maléfice, là, c'est réédité par qui?
Donc, c'est réédité par le Club Pythagore. Donc, qui a été fondé en fait par l'auteur du jeu, enfin par les deux auteurs du jeu.
Donc ça se passe en France, le jeu, rappelle-le.
C'est un jeu de Michel Godot.
Ouais.
Et oui, donc ça se passe.
C'est dans
France.
Le Paris.
Dans le Paris, ouais. Début du XXe.
Donc effectivement, t'as tout la commune, tout ça. Ouais.
Michel Godot qui interviewait d'ailleurs dans le.
Oui, et d'ailleurs, oui, c'est complètement par hasard, mais Cassius a fait aussi dans son numéro 2 un très bon panorama.
C'est pas un hasard, hein. Je pense qu'il te surveille pour voir de quoi tu vas parler, et en fonction, ils font leur.
Non, parce qu'il est paru avant quand même que je le fasse mon truc. Mais bref, c'est marrant qu'on s'intéresse au même jeu au même moment. Il y a d'ailleurs un très bon portrait de famille des suppléments qui sont parus pour ce jeu. Donc c'est un bon supplément à ce podcast, c'est le Casus Belli numéro 2, dans lequel vous pourrez retrouver une interview de l'auteur et une review de tous les suppléments qui sont parus pour ce jeu. Voilà.
D'accord. Qui vous rappellera peut-être le catalogue jeu des cartes qui vous faisait peut-être comme moi rêver à l'époque. Non, ça s'est jamais arrivé de baver devant le catalogue jeu des cartes il y a 15 ans.
Le truc Club Passion, je sais plus quoi.
Oui, peut-être, je sais plus. Non, le catalogue jeu des cartes avec les jeux de rôle de jeux des cartes et les jeux de plateau à la fin. Tu sais, dans le pour les petits jeux qui se vendent pas, c'est les jeux de plateau, les trucs comme ça, quoi. Et les jeux qui se vendaient, c'était les jeux de rôle. Donc t'avais des doubles pages, des triples pages, et tu bavais devant. Et puis il y avait notamment les scénarios de Maléfice. Oh là là, la belle époque. Dans tous les sens du terme.
Ouais.
Alors, puisqu'on en est à.
Au Maléfice, en parlant de Maléfice. En parlant de choses mystiques.
En parlant de choses mystiques, alors avant d'arriver à la rubrique que vous attendez tous, c'est-à-dire celle la rubrique de l'invité, voici la chronique helvétique d'Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour David.
Alors, ce mois-ci, pour ta chronique, tu vas nous présenter un petit panorama des systèmes de règles de jeux de rôle, et plus précisément, les plus connus, ceux auxquels on a tendance à se référer.
Voilà, c'est ça. En fait, on en avait parlé un petit peu comme ça au détour d'une précédente chronique. L'idée, c'est simplement de rappeler les différents noms des systèmes de règles donc, qui motorisent les jeux de rôle actuels. Alors, je parle bien de système de règles. Hein. Là, c'est pour faire plaisir à Romaric. Et...
Pour être précis, de système de résolution.
Oui, mais non, plus système de règles là, parce que ça. Bon, non, c'est vrai, tu as raison. Des systèmes de résolution, puisque finalement, en faisant ce tout petit panorama, c'est surtout là-dessus que je vais mettre le doigt, puisque finalement, c'est ce qui les différencie en fait pour la plupart. Alors, je vais peut-être te demander un peu d'aide quand même, parce que tu sais que je cultive une ignorance crasse en ce qui concerne un système de jeu pour. Ancien.
Le tout premier d'entre eux, tu veux dire.
Voilà, et je prétends donc ne pas savoir du tout comment il fonctionne, si ce n'est qu'il utilise, je crois, un D20.
Ah là là, il est mignon. Donc nous allons donc commencer par le système de donjon, qui est devenu par la suite le système D20, qui a donné naissance à un nombre de jeux basés sur la version OGL du D-System. Donc c'est un système qui est essentiellement basé sur les caractéristiques et les compétences, bien que les premières versions aient été plutôt basées sur les caracs, où il s'agit de lancer un D20, d'ajouter les bonus afférents, c'est-à-dire les bonus de carac et de compétences, et de faire au-dessus du seuil des difficultés annoncé. Donc c'est la base, c'est le truc que tout le monde connaît.
Mais non.
Oui, bon, ok. Que la plupart des gens connaissent, dirons-nous.
Voilà.
Et maintenant, le champ est libre pour que tu puisses nous parler de tous les autres.
Voilà, bon, je ne les connais pas forcément tous dans le détail aussi bien que les jeux que j'ai présentés précédemment. Donc évidemment, il n'y a pas pour moi non plus l'intérêt de parler des tenants et aboutissants exacts de chacun de ces systèmes de règles. Alors bon, ok, Donjons et Dragons, ça a été le premier. Il y a eu d'autres systèmes de règles après Donjons et Dragons qui ont eu peut-être moins d'impact en fait sur le long terme. On pourrait parler de Tunnels and Trolls et puis de 2-3 autres trucs de l'époque, mais qui n'ont pas eu réellement de descendance en fait. Après ces quelques oubliés, le premier à vraiment avoir beaucoup d'importance, et là je vais arrêter de vous faire attendre, il s'agit donc bien du Basic Role Playing Game, qui est en fait le BRPG, qui a été créé par Chaosium. Donc Chaosium qui est le doyen pratiquement des maisons d'édition actuellement encore en exercice, qui a donc publié à l'époque en fait le premier jeu qui fonctionnait avec ça, c'était RunQuest dans l'univers de Glorantha. Mais je crois que ton autre complice là en sait plus que moi sur la question. Le système BRPG a été, en fait, ça a été un des premiers systèmes aussi qui a été modifié et adapté réellement en fonction des éléments de contexte qu'il m'autorisait. Il a donc subi plusieurs transformations qui l'ont rendu, je dirais déjà à l'époque, presque narrativiste, en fait, même si c'est un terme un peu galvaudé, on est d'accord. Bon, si je reviens un petit coup sur Donjons et Dragons, il y a eu toute une période en fait où on avait pour D&D des univers qui étaient spécifiquement en fait créés pour D&D. J'en parle aussi parce que son auteur est récemment décédé. Le premier jeu de rôle qui a été en fait entièrement créé à partir d'un système de règles qui n'était pas en fait le sien d'origine, mais qui a été donc adapté pour cet univers, c'était Cumel.
Ah oui, exact, le Empire of the Petal Throne.
Voilà, exactement. Et mais ça reste quand même un système qui est très difficile à différencier de D&D. En fait, il y a quasi rien en fait qui change vraiment, quoi. Par contre, pour BRPG, entre RunQuest, l'Appel de Cthulhu, Stormbringer, Hawkmoon et le gazillion d'autres jeux actuellement oubliés ou encore en cours de publication, il y a eu en fait une collection de petites adaptations, de touches qui ont été en fait ajoutées pour compléter et mieux coller au contexte. Alors la grosse différence qu'il y a entre D&D et BRPG, je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que là où D&D et D20 finalement utilisent un système de template, quoi, de modèles préparés pour caractériser les personnages, en tout cas la création, dans le cas du BRPG, en fait, ça fonctionne avec une collection de compétences qui sont chiffrées sur 100 et en compétences qu'on va utiliser en cours de partie, simplement en les confrontant à en soustrayant une difficulté et en vérifiant si on arrive à placer un des 100 en dessous du score résultant, quoi. Alors à ça, dans le cas de RunQuest, je ne sais pas exactement ce qui avait été ajouté, mais comme le système avait été écrit un petit peu à l'origine pour ce jeu-là, je pense qu'il doit y avoir pas mal d'effets de manche pour rendre le côté héroïque de l'univers. L'Appel de Cthulhu avait apporté quelque chose qui est encore aujourd'hui sa principale caractéristique, qui est donc les points de santé mentale.
T'attends.
Exactement. Les points qui, quand on n'en a pas, on en est fou. Donc ça, c'était un élément. Il y a eu un système équivalent de santé mentale de Stormbringer, mais qui représentait pas réellement en fait la démence provoquée par les visions indicibles et tout, mais plus en fait le contact aux éléments chaotiques et tout. Bon, c'est le même système à peu de choses près en fait qui est un peu adapté. Mais voilà, donc pour le BRPG, on a une liste de caractéristiques qui sont un peu des valeurs par défaut, une collection de ressources, comme ça reste encore le cas pour beaucoup de jeux maintenant, donc des points de vie, des points de volonté, deux, trois autres échelles du même niveau. Et ensuite, ce que sait faire un personnage, donc, qui est donc cette liste de compétences exprimée en pourcents de réussite. Et puis, c'est toujours des pourcents qui sont donnés par rapport à une action ou à une situation où on a quand même une malchance raisonnable de se maraver un peu, quoi. Donc, dans les règles, malheureusement, j'ai plus la version qui avait été publiée en français à l'époque. Dans un certain sens, c'est mon premier jeu de rôle par bien des aspects. Mais voilà. À l'époque, en fait, je me souvenais qu'il y avait une petite phrase qui disait que quand on avait 50%, en fait, dans une compétence, c'était pas une chance moyenne de réussite qu'on avait, parce que souvent, en fait, c'était déjà confronté à un obstacle réel et concret. Donc déjà, à ce moment-là, on introduit pour les joueurs, pour le meneur de jeu, une part d'interprétation qui essaye pas de complètement transcrire sous forme de règles et de paragraphes deux, trois simples éléments de bon sens, en fait.
D'accord.
Alors, dans le cas de BRPG, il y a encore, en fait, un truc, c'est que les pourcentages, le système, comme c'est déjà sous pourcentage, c'est difficile de comparer, en gros, les actions de deux personnages qui ont, en fait, des pourcentages quelque part. Donc, il y a une table... Qui ont des pourcentages dans des compétences, par exemple. Il existe une table de comparaison où, en fait, dans un axe, on a le score d'un personnage, dans l'autre, on a le score de l'autre, et en fait, la croisée donne le pourcentage de comparaison résultant, en fait. Donc, un peu avant la lettre, déjà, une sorte de système de table de résolution. Pour la petite histoire, donc, les tables de résolution uniques sont arrivées beaucoup plus tard, mais c'est déjà un méchant précurseur, je pense.
D'accord.
Voilà, bon, BRPG donc, continue d'être publié par Chaosium. Il y a encore des jeux qui sont publiés, qui sont édités en fait en l'utilisant, avec des versions modernisées, simplifiées, expurgées, dans tous les sens, dont l'Appel de Cthulhu, qui en fait est toujours publié, d'ailleurs le dernier jeu encore publié par Chaosium. Je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que la première édition de Nephilim était en fait basée sur ce système. C'est, ouais, peut-être, faudrait que je vois, en fait, que je sorte ma pelle et mon piolet et que j'essaye de retrouver, en fait, mon livre de base. Mais...
Continuons.
Tant pis. On demandera au public de nous démentir, le cas échéant.
Alors, passons à un système spécialement adapté pour l'espace.
Un système spécialement adapté pour l'espace, voilà. Donc, on avait d'abord le D20, ensuite on a eu le D100 et maintenant on a le D6. Le D6 n'avait pas de nom au début. C'est un système de jeu qui a été baptisé quand son éditeur, en fait, s'est dit que, ah bah tiens, après tout, on pourrait bien essayer de faire concurrence à Donjons et Dragons, à D20 et tout. Et bon, donc on a le D6 système qui a été créé par Western Games pour les besoins d'un jeu de rôle quand même. Qui a eu pas mal de succès finalement, qui est la première édition de Star Wars Role Playing Game. Mm-hmm. Donc l'objectif là est encore plus que dans les deux précédents, de rendre un aspect héroïque bien enlevé, bien western dans l'espace, tout. Donc le cas là donc, du D6, on le connaît aussi pour sa faculté quasiment surnaturelle à générer des brouettes de dés à lancer. Ça c'était comme ça au début, hein. Ça a quand même pas mal changé. Alors le principe du D6 est très simple, on a des compétences, des caractéristiques, finalement toutes sortes de scores qui sont exprimés en chiffres, et ce chiffre est simplement le nombre de D6 qu'on va lancer. On fait la somme et on compare à une difficulté. Là, c'est plus un jet en dessous, mais un jet en dessus. Et ça a l'avantage finalement qu'on peut directement comparer différents personnages en jetant les dés et en regardant celui qui fait le plus gros résultat, et puis voilà. Il y a beaucoup de jeux qui ont été en fait bâtis sur ce système D6. Donc Star Wars est le premier, mais c'est de loin pas le seul. Alors bon, je n'ai pas fait la liste de tous les jeux qui ont été publiés avec ce système de règles, mais je pense qu'on peut quand même citer les Métabarons, qui étaient en fait au moment où Western Games était plus ou moins en main française ou suisse, où on n'a jamais trop su finalement. Les Métabarons en fait reprenaient le système franchement héroïque de Star Wars et l'adaptaient, je trouve, de manière plutôt élégante à un contexte qui rend presque Star Wars petit joueur en comparaison. Mais bon, n'est pas Alejandro Jodorowsky qui veut, hein, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter? Comme ça, de tête, justement, j'en vois pas trop le problème. C'est que c'est un système qui a été très utilisé à l'époque où Western Games était encore très très actif dans l'édition. Maintenant, un peu moins. Il y a un éditeur français qui a sorti une version expurgée du système générique. Donc, on peut trouver chez... On va en mettre un en lien, là, j'ai un blanc. Et ça, ouais, enfin voilà quoi. Mais c'est quelque chose que je recommande réellement pour les contextes à tendance western pétaradant. C'est quand même particulièrement adapté en fait.
D'accord. Il va falloir aller un tout petit peu plus vite.
D'accord, je vais un petit peu plus vite. Là, autre chose. GURPS. Publié par Steve Jackson Games, je sais pas quand. Je pourrais regarder la date, mais ça me gave. GURPS, c'est l'abréviation de Generic and Universal Role Playing System. Bon, en bref, la mécanique centrale de GURPS est très simple. Hein. C'est un truc qui est basé sur trois caractéristiques. Et en fait, on fait simplement des jets sous caractéristiques plus ou moins modificateurs. Donc, on a trois caractéristiques, des bonus, et puis ça se joue avec 3d6, simplement.
D'accord.
Tout le reste des règles découle à peu près immédiatement en fait, de cette volonté de simplification. Donc il y a une vision très synthétique de comment les armes sont exprimées, comment l'énergie vitale d'un personnage est exprimée et tout ça.
Il y a notamment un truc qui est très bien dans GURPS, c'est la notion de niveau technologique qui permet de gérer divers degrés de science.
Voilà. Alors c'est pas le premier jeu qui introduit ça, hein. Traveller l'a fait avant. Mais c'est le premier qui l'a systématisé au point où en fait ça dirige effectivement l'essentiel de la rédaction des produits de cette gamme. Et des produits, il y en a. En fait, l'éditeur qui est Texan, c'est Steve Jackson Games, donc l'américain.
Oui, non pas le britannique.
Voilà. Publie depuis la sortie de GURPS un monceau de suppléments, de compléments d'univers, d'éditions nouvelles de GURPS et tout. Donc c'est une gamme qui est prolixe et très 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 riche en adaptations et en univers de toutes sortes. Il y a vraiment de tout. Ça va des mondes parallèles au futur, 12 versions différentes de Space Opera, autant de...
Non, c'est très très riche. Au vampire, au ninja...
Au vampire, au ninja. Pratiquement tous les grands univers de jeux de rôle qui ont été adaptés ou qui ont eu leur propre version de règles, qui ont été peut-être aussi adaptés pour Donjons et Dragons, ont aussi eu leur version GURPS, en fait. Il y en a vraiment énormément. Par contre, bon, ben voilà, ça a un prix. Et c'est un prix quand même qui est assez prohibitif, je dirais. C'est que la volonté de synthèse qui était en fait au départ quelque chose de simplificateur dans GURPS s'est transformée en volonté d'exhaustivité où on essaye réellement d'épuiser un contexte dans ses moindres détails pour définir les personnages, pour définir les vaisseaux spatiaux, pour définir plein de trucs. Donc très vite, quand on crée un personnage, on se retrouve à se balader dans des catalogues quasiment infinis de traits positifs et négatifs qu'on peut utiliser pour gagner ou dépenser en fait des points de création. Parce que ça, c'est le truc qui a été aussi amené avec GURPS, qui, je ne sais pas si c'est réellement lui qui l'a amené en premier, mais c'est quelque chose qui a vraiment été répandu par GURPS. Le principe qu'en fait, quand on crée un personnage, c'est plus quelque chose qui est tiré au dé ou complètement ou aléatoire, mais c'est quelque chose qui est construit, donc on a un pool de points qu'on dépense pour acquérir des avantages et qui nous permet aussi avantages et désavantages. Donc les avantages coûtent des points et les désavantages en rapportent. C'est le royaume du min-maxage, littéralement. c'est juste affolant.
C'est vrai, je confirme.
Et finalement c'est très très dommage parce que ça rend le jeu un peu inaccessible. Ça a quelque chose un petit peu de tragique finalement, c'est liste quasiment infinie de traits et d'avantages et désavantages qu'on n'utilisera jamais parce que il y en a juste trop et il y a un moment il faut faire un choix quoi. Un autre point qui est un petit détail, je dirais, culturel, mais qui m'a particulièrement gavé quand j'étais un peu dans GURPS, c'est le fait que Steve Jackson Games, pour une raison totalement inexplicable, et inexpliquée en l'occurrence, ne veut pas abandonner les unités impériales.
Ah oui.
Donc quel que soit l'univers de GURPS, quel que soit le supplément qu'on a récupéré, on se retrouve en fait à devoir calculer des vitesses en miles par heure, à peser en livres, mesurer des volumes en gallons, et ainsi de suite. Quoi. Alors la solution de facilité, c'est de faire du 1 pour 1, mais comme les formules, parce qu'il y a au bout d'un moment quand même pas mal de formules ésotériques, ouais, bref, les unités impériales, voilà, c'est fatigant, et puis voilà. Finalement, la malédiction de GURPS, c'est la volonté de collectionneur des meneurs de jeu, parce que quelque part, c'est un jeu à bâtir soi-même. C'est bourré de pièces, en fait c'est une caisse d'un mètre cube de pièces de Lego et à partir de là on peut construire exactement le jeu qu'on veut quoi. D'ailleurs dans les jeux à bâtir soi-même, il y en a un qui date à peu près de la même période qui s'appelle Fudge. Alors c'est important de noter que l'auteur de Fudge, Stéphane O'Sullivan, à l'époque en fait où le jeu est sorti, c'est quelqu'un qui était et qui je crois encore continuait longtemps plus tard de travailler sur GURPS. Donc il a travaillé sur GURPS Swashbuckler, GURPS Fantasy, enfin, il était notamment l'auteur de ce fameux supplément GURPS qui s'intitule Bunnies and Burrows, où en fait on joue des lapins,
oui,
dont je reparlerai dans une chronique future d'ailleurs.
Si tu veux, avec plaisir.
Oui, les lapins, tout ça, bref. Et bon, alors... Fudge, la grosse différence d'approche avec GURPS, c'est que Fudge, c'est un système clairement à bâtir soi-même, quoi. Les règles ne sont pas réellement choisies à l'avance. On a un kit de résolution d'action qui est central. Et puis après, tout le reste, c'est un petit peu à choisir parmi une bonne quantité d'options, finalement. Alors, les choses que Fudge a apportées, une volonté, je pense, de simplifier les choses, mais presque à un niveau d'abstraction, assez abstraitement, finalement. Fudge a apporté surtout un objet assez curieux qui s'appelle le D-Fudge, oui. Qui est en fait un dé à trois faces, on va dire, hein. Qui en fait a pour résultat, au lieu d'avoir les 1 à 6 normaux d'un dé standard, en fait c'est juste plus, moins et puis 0.
Oui.
Et une utilisation de ce truc, c'est que finalement on prend les défauts, on les a toujours par 4, et on fait une somme simplement, les 1 plus et 1 moins s'annulent, le 0 n'a aucun résultat, et en fait ça fait une palette de résultats qui va de 4 à. Enfin de moins 4 à plus 4. Et ouais, voilà. Moi, c'est une expérience intéressante, hein, qui a failli être traduite en français, mais le projet s'est un petit peu cassé la gueule avant d'arriver jusque-là. C'est publié en américain par Grey Ghost Press. Ils ont fait quelques jeux en fait basés là-dessus, dont un où on joue des animaux, les animaux familiers d'un magicien. C'est une sorte de scénario en fait tout préparé à monter et à jouer soi-même.
Un peu pour My Life with Master.
Non, c'est juste, en fait, on est les animaux familiers d'un magicien, un enchanteur, et l'enchanteur a été capturé et fait prisonnier par son méchant ennemi, et en fait, le gentil chien, le gentil chat, le cheval, et en fait, bref, les fidèles compagnons du enchanteur partent à sa rescousse et cherchent à le libérer. C'est un petit scénario tout con qui est fait en 32 pages, il n'y a pas eu de suite, il n'y a eu que ça, mais réellement, c'est assez amusant, et c'est une bonne présentation de Fudge, en fait, dans ce qu'il a de plus élégant.
D'accord.
Alors, Avec le D est associé généralement à une échelle de lecture qui va donc de moins 4 à plus 4, voire plus en fait. Et c'est ces deux éléments-là, le D et l'échelle, qui ont été, enfin, qui sont les deux principaux éléments de Fudge qui sont repris par un système très à la mode actuellement qui s'appelle Fate en fait. Voilà.
D'accord.
Et donc voilà.
Alors ce Fate.
C'est le jeu, en fait, c'est le système de règles un peu à la mode maintenant. J'aurais un peu tendance à dire qu'il me paraît donc qu'il est frappé à peu près de la même malédiction que GURPS, mais comme on est encore au tout début de son histoire, c'est encore moins bien, c'est moins développé et ça reste encore assez
digeste.
Voilà. Ça a commencé avec Spirit of the Century. Le principe, c'est une boîte qui s'appelle Evil Hat Productions, qui est responsable de quelques autres jeux assez expérimentaux et très intéressants à lire et à jouer pour certains. Spirit of the Century, c'est un jeu qui s'annonce comme étant un pulp pick-up role-playing game. Donc en fait, on reprend les bases techniques de Fudge et puis on construit là autour un système de jeu, cette fois-ci, non plus juste de règles, qui induit par sa définition, par son fonctionnement, des aventures pulp. Donc au lieu d'avoir cette fois-ci des règles qui sont un peu plaquées, collées, comme un autocollant, comme tu sais les petits autocollants Chiquita qu'il y a sur les bananes, en fait, ils font pas partie de la banane. Ils font pas partie de la banane, mais en quelque sorte, ils sont importants pour la banane.
D'accord.
Et Spirit of the Century donc, utilise ces éléments de moteur. Donc il emploie donc comme Fudge, les D-Fudge, donc les DF, là, donc plus, moins, zéro.
Oui.
Et ajoute à ça un concept de, on va dire, de compétences, pour comparer,
ouais.
Mais qui ne sont pas des compétences. En fait, ce sont des traits, et les traits sont traits et aspects, bon, je vais pas entrer dans le détail, disons, mais le principe, c'est que finalement, on crée un personnage en le décrivant non plus parce qu'il sait faire, mais parce qu'il est capable, en fait, par le côté spectaculaire, en fait, du personnage. On ne dit plus, oui, alors il a tant de pourcents à trouver objet caché, il est super bon dans une bibliothèque et tout. Mais dans le fond, lorsqu'on est en train de crapahuter en équilibre instable sur les ailes d'un biplan et qu'on est poursuivi par une meute de chiens enragés volants ou que ça brûle, ou je ne sais pas, qu'on est en train de tomber d'une soucoupe volante construite par l'Empire nazi... Les compétences, à la limite, on s'en fout un peu, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir avec quel brio le personnage se sort de ce mauvais pas.
D'accord.
Et Spirit of the Century introduit donc une lecture des personnages, une écriture du personnage, et donc dans son ensemble un système de jeu où on apporte plus un aspect spectaculaire et descriptif au personnage que purement technique en fait. Bon, je pense que ça vaudrait la peine qu'on parle en fait plus en détail des jeux de la génération Fudge à l'occasion, parce que c'est Fate, parce que c'est quand même assez riche. Il y a eu pas mal de variations qui ont été proposées autour. Et ce que je disais, c'est que justement, à chaque nouvelle version d'un jeu basé sur Fate, il y a une collection de règles ajoutées ou retranchées. Donc, je crois qu'on doit être à 6 ou 7 systèmes de magie différents pour des trucs made fun. Et tous sont intéressants, plus ou moins complexes, plus ou moins synthétiques et plus ou moins poétiques aussi. Quoi.
D'accord, d'accord.
Mais bon, dans le cas de Spirit of the Century, ce qui est aussi un élément intéressant, je le cite pour la forme, parce que c'est quand même très très chouette, comme on joue en gros dans le pulp, en fait on joue des héros pulp, donc des gens qui sont, c'est Harry l'aventurier garagiste et puis ses compagnons. Oui. Quand on crée un personnage, en fait, on le crée comme si on était en train d'écrire la quatrième de couverture d'un roman qui compte ses aventures.
D'accord.
Et on explique donc son propre aspect de personnage, puis après on passe la feuille à droite. Et en fait, les autres personnages autour de la table font les guest stars et ajoutent des éléments qui impliquent leur personnage en fait dans l'aventure du premier de la feuille en fait.
D'accord. Donc,
okay. Ça se retrouve comme ça. C'est assez amusant. C'est une approche qui fait que les systèmes de création de personnages associés à Fate sont globalement plutôt intéressants à lire et apporte souvent plein de trouvailles rigolotes sur la manière de procéder. Quoi. Mais voilà. Bon, voilà. Donc ça, c'était une petite mise en bouche, en fait. Et on pourrait encore parler de tellement de trucs. Hein. Je veux dire, il y en a quand même beaucoup des règles. Il y a beaucoup de créateurs de jeux qui ont ressenti le besoin de donner un nom à leur bébé. Et souvent pour de bonnes raisons, des fois peut-être pas pour toutes. Quoi. Voilà.
D'accord, ben, merci beaucoup Antoine.
Mais de rien.
Et puis, au mois prochain.
Ouais, peut-être un peu avant, il va falloir qu'on finisse de boire toutes ces bières, non?
Peut-être.
Allez.
Salut.
Salut David, à bientôt.